Bonsoir tout le monde. Merci d'être présent encore avec nous ce soir. Donc, vraiment la dernière activité du symposium du département de sciences biologiques. Puis, merci d'être là pour notre épisode de clôture de la saison 2 des Lucioles. Donc, bienvenue au podcast Les Lucioles. Mon nom est Marie-Christine Lafrenière. Je suis doctorante ici en sciences biologiques au Campus 1000 et je co-anime Les Lucioles avec Stéphanie, postdoctorante en biologie aussi au Campus 1000. Salut, Steph!
Salut! Donc, qui connaît les Lucioles?
Non, mais en tapant des mains quand même!
OK, donc vous êtes encore réveillés, c'est bien. Donc, c'est ça. Donc, c'est un podcast qui met de l'avant la recherche des étudiants et des étudiantes, et ce, en français. Donc, on trouve que le français, c'est assez important pour partager la science. Donc, si vous avez un intérêt pour les guêpes parasitoïdes, les poissons parasités, la culture académique, ben, je vous invite à aller écouter nos épisodes de la saison 1 et saison 2 sur votre plateforme d'écoute préférée, mais surtout nous suivre sur Instagram parce que c'est là où on met du contenu exclusif, magique, qui alimente vraiment, qui alimente vraiment les conversations qu'on a là, derrière le micro.
Ce soir, on reçoit l'incroyable Lynn Morissette, qui est professeure associée à l'Institut des sciences de la mer de Rimouski et écologiste, spécialiste des mammifères marins et du fonctionnement des écosystèmes. Donc, Lynn Morissette, bienvenue au podcast Les Lucioles.
Hey, merci tellement de me recevoir.
En fait, tu te retrouves aussi aujourd'hui parmi nous, mais c'est un retour au bercail parce que tu as fait ton baccalauréat en biologie ici même au département de sciences biologiques, mais pas au Campus 1000, à l'ancien pavillon Marie-Victorin que Stéphanie et moi, on a aussi connu. Mm-hmm. Donc, est-ce que ça te rappelle des beaux souvenirs? Comment tu te sens d'être retour aujourd'hui?
Bien, c'est comme si j'étais dans une nouvelle maison parce que le retour aux sources, la source n'est pas pareille, mais je suis tellement contente d'être ici. J'ai vu des gens que j'ai croisés. J'ai vu Sophie avec qui j'ai fait mon bac. Je suis vraiment un produit du baccalauréat en sciences biologiques de l'Université de Montréal. Fait qu'à chaque fois que j'ai la chance de revenir voir mon monde, c'est tellement cool.
D'ailleurs, on a quelques photos de la station de biologie des Laurentides. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est quoi la SBL? C'est vraiment un joyau. Veux-tu nous dire deux, trois mots sur ces photos?
Bien, ça, c'est Bernadette Pinel-Alloul, la première chercheure, professeure qui m'a donné ma chance en biologie. J'ai eu la chance de travailler dans son labo. Ça a été mes premières années de terrain. Et je travaillais en écotoxicologie dans des lacs en Abitibi. On travaillait en plongée sous-marine. Et bien, ça ici, c'est ouais, y a des photos où on est à la station de biologie des Laurentides, mais la photo de gauche, oui, c'est la quantité de stock qu'on était obligé de traîner dans le bois. Donc, on était des amphibies. On faisait de la plongée, mais on marchait dans le bois pour rejoindre les lacs pour aller faire la plongée. C'était tellement des belles années. On a eu vraiment du fun avec Bernadette. Puis c'est vraiment la première femme qui m'a initiée à tout ce domaine de sciences-là. Puis j'ai toujours été super reconnaissante de la place qu'elle a eue dans ma vie et dans ma carrière.
Mais ce que je me demande, c'est est-ce que tu as eu un déclic très tôt dans ta vie pour aller en biologie ou c'est quelque chose qui est arrivé plus tard dans ta vie?
Bien, j'ai eu le déclic pour les sciences en premier. J'avais un scientifique dans ma famille. C'est un professeur en géomorphologie qui s'appelle Jean-Claude Dionne. Il était à l'Université Laval. Il est décédé il y a 2 ans environ, mais ça a été le premier. Puis je le regardais aller, puis pour moi, Jean-Claude, c'était comme Indiana Jones. Là. Il se promenait. J'ai grandi sur le bord de la mer, au Bas-Saint-Laurent, dans une petite place qui s'appelle Saint-Fabien-sur-Mer.
D'ailleurs, on a des photos sur ça.
Puis je suivais Jean-Claude sur les plages. Lui, il cherchait des roches. Puis ça avait donc l'air intéressant de faire des sciences. Puis moi, les roches, ça m'intéressait plus ou moins, mais je me suis vite intéressée aux vivants. Là-bas, à Saint-Fabien-sur-Mer, il y avait entre autres une pêche à fascine. Puis quand le pêcheur venait, il prenait les gros poissons qui avaient une importance commerciale pour lui, puis il laissait des petits poissons. Fait que quand il était passé, bien, j'allais dans sa pêche après, puis je ramassais, puis je regardais les petits poissons qui restaient, puis je faisais de la biologie à 6 ans sans le savoir.
T'as-tu un trophée de découverte sur le bord de la mer? Parce que je connecte beaucoup avec toi là-dessus. Moi, quand je me promène, peu importe si où, en fait, mais souvent sur le bord de la mer, s'il y a un squelette de quelque chose ou une roche qui ressemble à quelque chose, je le ramène chez nous, puis j'ai ma petite étagère. Donc, as-tu un souvenir de la mer comme ça que tu gardes précieusement?
Bien, j'ai les plus beaux... J'ai toutes les roches de mon oncle. Bien, pas toutes, mais j'ai plusieurs roches de mon oncle parce qu'il y avait une fascination pour les roches en forme d'œuf. j'ai plein de galets chez nous qui viennent de partout dans la région puis qui ont été ramassés par Jean-Claude. Mais sinon, les squelettes, j'ai des tessons de verre, des bouteilles de vitre cassées là, qui finissent par brasser avec le temps, puis ça fait des vitres polies. Mais là, il y a comme toute une classification. Là, les gens du bord de la mer vont me comprendre. Là. Les vitres brunes, ça ne vaut pas la même chose que les vitres blanches, puis les bleus, c'est rare. Des fois, il y en a des turquoises ou des mauves. Donc ça, c'était ça, mes trésors à moi.
Wow! moi, je n'ai pas de collection de vitres... chez moi. Mais donc, moi ce que je me demande, c'est, donc on sait que tu as fait ton bac à l'Université de Montréal. Après, où est-ce que tu t'es dirigée?
Bien, après, je savais que je voulais faire de la biomarine. Je ne comprenais pas trop pourquoi j'étais venue à Montréal pour faire ça. Donc, ensuite, je suis retournée à Rimouski pour faire une maîtrise, mais j'avais été approchée par un prof qui travaillait sur les mammifères marins qui s'appelle Mike Hamill. En fait, c'est un chercheur de pêche et océan Canada. Puis lui, il m'avait dit, j'ai plusieurs étudiants en océanographie, mais j'ai le goût qu'on essaie d'étudier les phoques d'une façon différente. Fait que tu vas aller faire une maîtrise en gestion de la faune et de ses habitats à l'UQAR. Fait que finalement, j'ai pas fait ma maîtrise en océanographie, j'ai fait ma maîtrise entourée de spécialistes d'écureuils, de caribous et puis d'orignaux. Puis après, ben j'ai été... mais j'étais le mouton noir là, qui travaillait sur les phoques. J'ai tout skippé mes cours de foresterie pour aller faire des cours en océanographie à place. Fait que j'ai fait un hybride entre océanographie puis gestion de la faune. Puis après, ben, je suis allée à UBC faire mon doctorat en biologie marine.
Et puis, comme on voit sur la carte,
ah oui,
tu as aussi fait deux postdoctorats, donc un peu partout en Amérique du Nord.
Oui, Arizona State University, où je travaillais. Oui, c'est dans le désert, mais je travaillais sur les baleines, parce que même si c'est dans le désert, il y a là-bas le plus grand département ou la faculté ou l'équipe de recherche en écologie de la conservation. Et c'était vraiment l'approche de conservation que j'étais allée apprendre là-bas dans mon postdoc. Puis à Guelph, j'ai fait un autre postdoc sur la biodiversité avec la chaire de recherche du Canada sur la biodiversité.
Avant qu'on parle d'écologie de la conservation, parce que c'est un champ qui est assez récent, je suis quand même curieuse de savoir, tu sais, t'as quand même fait trois formations dans trois universités différentes, de régions d'Amérique du Nord différentes sur des domaines complémentaires. Donc, comment ça a contribué à ton expertise qui est assez unique aujourd'hui, puis aussi à son applicabilité au Québec? Donc, tu es vraiment allé ailleurs chercher différentes connaissances, tu les as ramenées ici aujourd'hui, puis tu peux l'utiliser au Québec.
Oui, bien, en fait, je suis allée... c'est mon intérêt pour des personnes qui ont déterminé les lieux où j'étais. Quand je suis revenue à Rimouski, c'est sûr que c'était pratique parce que c'était chez moi, mais je suis revenue dans une cohorte de Français de l'Université de Rennes où j'étais la seule Rimouskoise de ma gang. Donc, je n'étais pas tant de retour chez nous, mais après le doctorat, bien, c'est mon directeur Daniel Pauly qui était à UBC, puis c'est avec lui que je voulais travailler. Juste avant, il était aux Philippines à Manille, donc j'aurais pu me retrouver vraiment ailleurs. Puis après ça, bien, c'est de la même façon. Léa Gerber en Arizona qui était là-bas, puis je suis allée là-bas parce qu'elle était là. Donc, c'est toujours des histoires de cœur. Kevin McCann à l'Université Guelph, même chose. C'est mon cœur qui a dicté les endroits géographiques où je me suis retrouvée.
Est-ce que tu pourrais nous partager des souvenirs précis que tu as à chacun de ces moments-là de ton parcours? Est-ce qu'il y a des choses qui te viennent en tête?
Bien, à Rimouski, à Rimouski, ce qui était vraiment intéressant, c'était d'être de retour chez moi, mais en même temps de me retrouver comme si j'étais vraiment dans une cohorte de Français. Je me suis fait des amis incroyables là-bas, comme si j'avais été faire une maîtrise en France, parce que c'était vraiment la très grande majorité de ma cohorte. Donc, c'était spécial d'être chez moi, mais avec des nouvelles personnes, parce que mes amis de Rimouski, de mon enfance, ils ne sont plus à Rimouski. Donc, de refaire mes réseaux avec chez moi, mais avec des gens d'ailleurs, c'était extraordinaire. Puis ça s'est continué à UBC. Ce que je me souviens le plus, c'est ce côté international-là aussi. Mon directeur, Daniel Pauly, avait des gens dans son labo d'à peu près partout dans le monde. Et c'était très important pour lui qu'au moins un chapitre de notre thèse soit en lien avec là d'où on vient. Moi, j'avais un chapitre de ma thèse sur le golfe du Saint-Laurent, puis les interactions entre la morue puis le phoque. Puis tout le monde comme ça arrivait avec une petite partie de chez eux. Puis quand on allait souper au restaurant, moi puis mes amis, ça avait l'air d'une réunion de l'ONU parce qu'il y avait des gens partout dans le monde. J'ai une amie de Malte, une qui vient de la Namibie, une grecque, un gars qui venait du Chili. Puis ces gens-là, je les vois encore. Puis c'est vraiment le côté international de ça qui était génial. En Arizona, ben faire de la biologie des cétacés dans le désert, c'est quelque chose. La route pour se rendre jusque là où il y a des cétacés, puis il fait trop chaud. En Arizona, il fait juste trop chaud. Pour une fille du bas du fleuve, là, c'est trop chaud. Guelph, j'ai fait ça en partenariat avec France Dufresne à Lucar. Donc, je suis allée à Guelph peut-être deux fois. Dans tout ce postdoc-là, j'ai moins vu un peu Guelph, mais le côté biodiversité à la fine pointe là, dans les grosses chaires de recherche, j'ai trouvé ça bien impressionnant.
Moi, je voudrais qu'on rentre dans le fameux domaine de l'écologie de la conservation. Pourrais-tu nous le définir?
Ça, l'écologie de la conservation, c'est une science qu'on connaît peut-être moins au Québec ou qui est comme pas très bien défini. En fait, en anglais, on l'appelle conservation biology. Moi, je le traduis par écologie de la conservation, mais je sais pas c'est quoi le terme exact. Mais en fait, la biologie de la conservation, c'est l'art de modifier des comportements humains pour générer des actions qui protègent la nature, dans mon cas, plus les océans. Donc, c'est un hybride entre de la biologie ou du savoir environnemental, du marketing, puis de la philosophie ou de la psychologie humaine. Puis ça fait en sorte que longtemps, moi, je me suis impliquée dans les médias où j'ai toujours aimé la vulgarisation, puis je pensais que c'était un hobby. Puis, finalement, c'est peut-être pas un hobby parce que pour modifier des comportements humains, pour générer des actions, ben il faut créer ce pont-là pour pouvoir inspirer les gens à faire quelque chose. Parce que ces actions-là, ils viennent pas des scientifiques dans leur labo. Là, nous, on fait partie d'une grande chaîne, mais les actions, c'est pas les scientifiques qui les font.
Mm-hmm. Mais je trouve ça vraiment intéressant que c'est comme une rencontre de plusieurs domaines ensemble. C'est assez récent ou c'est né quand ce domaine-là, en fait?
Bien, en fait, je pense qu'il y a toujours eu des gens qui ont posé des actions comme ça pour protéger la nature. Quand est-ce que c'est devenu un domaine de recherche officiel? Je ne le sais pas. Mais depuis le début des années 2000, puis surtout avec ce qui s'est passé à Arizona State University où ils ont décidé d'en faire un département, ben moi, ça m'a beaucoup réconfortée avec ma démarche parce que je me suis dit, OK, c'est une science officielle. Je ne suis pas juste une biologiste qui aime ça, faire des podcasts. Là. Puis c'est important, je pense, d'avoir des sciences qui sont très, très descriptives, puis des sciences un peu interdisciplinaires comme ça, qui sont dans l'action, dans les solutions. Puis ça ne peut pas être d'un domaine très précis quand on a à travailler avec des gens de toutes sortes d'horizons différents. Donc, c'est venu avec l'espèce de vague de concertation multidisciplinaire. On en entend de plus en plus parler, puis je pense que c'est né un peu avec cette vague-là, d'arrêter de faire les choses tout le temps de la même façon, puis d'essayer de travailler tout le monde ensemble là, pour faire les choses autrement.
As-tu justement des exemples de gens avec qui tu as travaillé d'un autre milieu, que ça t'a mis au défi ou que ça t'a apporté certains apprentissages? Donc, pas des scientifiques des sciences naturelles, mais avec d'autres acteurs ou actrices.
Bien, en fait, oui, il y en a plein. En conservation, il y a un beau puis un mauvais côté. Le moins beau côté, c'est qu'on travaille avec des espèces en voie de disparition. Souvent, on ne va pas protéger des affaires qui vont bien. Souvent, on part. Le premier pas de nos démarches, c'est des enjeux environnementaux graves, le changement climatique, les déclins de biodiversité. Puis, moi, je me dis tout le temps, dans ces urgences-là, on n'a pas le luxe de se passer du travail, de perdre du savoir de personne. Donc, je travaille avec des pêcheurs, entre autres, parce qu'on a un enjeu dans le golfe du Saint-Laurent. On a des baleines qui sont en voie de disparition, les baleines noires de l'Atlantique Nord. Puis, elles sont frappées par des navires ou encore empêtrées dans des filets de pêche. C'est les deux grandes causes de mortalité. Donc, on travaille avec ces gens du transport maritime ou ces gens, ces pêcheurs-là. Ils sont sur le terrain à chaque jour. Puis, je dis aux pêcheurs, moi, j'ai un doctorat en pêcherie. Là, à UBC, mon département s'appelait Fisheries Center. Puis, il n'y a rien que j'ai appris ou qui est écrit dans un livre qui équivaut au savoir de ces gens-là qui sont en mer à tous les jours puis qui connaissent leurs trucs. Puis on le voit quand on travaille avec eux. Moi, j'ai déjà développé des nouveaux engins de pêche avec des ingénieurs qui disaient « Ah, oh, on va faire des engins de pêche où il n'y a pas le cordage, donc ça va être moins risqué pour les baleines. » Ça fait bien du sens, c'est en tête d'un ingénieur dans un bureau à Montréal. Puis là, la magie, c'est quand tu amènes ça à bord du bateau. Puis là, tu as le pêcheur qui n'est jamais allé à l'université, puis qui dit, ça, ça ne marchera pas. Cette corde-là, il faut que tu la mettes de l'autre bord. Puis ça, ici, il va falloir que tu l'accroches de telle façon. Et là, la magie s'opère et le savoir de l'ingénieur versus le savoir terrain du pêcheur se mettent ensemble. Puis là, après, on a une solution qui marche.
Puis dans ce cas-ci, ça a fonctionné, mais as-tu d'autres exemples d'un projet commun ou dans quel contexte ça avait été mis à collaboration puis ça a porté fruit?
Bien, tous les projets dans lesquels je travaille, il y a toujours une espèce... C'est peut-être parce que j'ai toujours été l'espèce de mouton noir de mon département. À l'Université de Montréal, j'étais la fille qui voulait faire de la bio l'année qu'ils ont comme arrêté d'avoir des chercheurs en biomarine. Après ça, j'ai fait de la biomarine dans un département de Caribou. Puis j'ai toujours été comme le mouton noir. Fait que j'étais habituée de travailler avec des gens qui ont moins rapport dans une gang de scientifiques. Puis c'est correct comme ça. Puis les pêcheurs, c'en est un bel exemple. Le savoir avec les Premières Nations aussi. On travaille beaucoup avec cette façon-là de comprendre puis de respecter la nature qui n'est pas la même que ce qu'on apprend de façon très académique, mais qui est tellement plus ancrée. Puis le meilleur exemple de ça, c'est que pas plus tard qu'il y a 2 semaines, ils ont trouvé un nouveau récif corallien au large de la Colombie-Britannique. Et c'est les Premières Nations côtières là-bas qui savaient depuis très longtemps que le récif existait, puis qui ont travaillé avec une chercheure, puis ils ont localisé le récif, ils ont été capables de le protéger, puis surveiller tout ça. Mais c'est leur savoir qui a été comme mis à contribution, puis qui a été le déclencheur de tout le reste. Donc, à chaque fois que j'ai travaillé avec des gens un peu atypiques dans des projets de recherche, ça a toujours donné des meilleurs résultats. Je travaille avec des artistes aussi qui ont un pouvoir de transmettre un message qui est tellement plus efficace que moi quand j'écris des rapports scientifiques là, écrits sur des 400 pages. Ça ne touche pas le monde, ça. Il y a 10 % de la population qui est capable d'absorber ça puis d'en faire quelque chose. Mais quand on travaille avec des artistes qui livrent le même message scientifique, mais en art, ça fait des miracles.
Mais d'ailleurs, je sais que tu as beaucoup travaillé avec des artistes. Est-ce que tu peux nous donner des exemples de comment ça a fonctionné ou y a-t-il des regroupements qui servent à jumeler artistes, scientifiques? Tu sais, comment qu'on fait? Moi, je suis une scientifique, je veux collaborer avec des artistes. Je fais quoi?
Bien, l'approche art et science, moi, je trouve que c'est quelque chose qui est complètement extraordinaire, là. Il n'existe pas de réseau art et science, mais les gens commencent à s'intéresser de plus en plus à ça parce que ça marche. Ça crée des actions où ça a vraiment un pouvoir de transmettre un message qui est beaucoup plus fort quand on s'allie. Un exemple là, concret, je travaille avec une chorégraphe en danse contemporaine qui est d'ailleurs ici là, présentement à Montréal parce qu'elle est en train de gagner des prix avec une pièce qu'elle a faite sur les marées noires en danse. Mais elle s'appelle Chantal Caron, sa compagnie s'appelle Fleuve Espace Danse et ses danseurs dansent dans le fleuve. Elle a fait danser des danseurs dans des pièces sur les changements climatiques. Ils dansaient sur des blocs de glace à la dérive. Là, elle fait une pièce sur les marées noires et elle a des danseurs qui sont dans l'eau avec des espèces de grandes robes noires qui ressemblent vraiment à un déversement de pétrole. Il y a des danseurs qui font des pièces sur le plastique dans les océans, puis ils traînent des grandes cordes de plastique, puis ça a l'air lourd, puis le message est tellement efficace quand on travaille avec des artistes comme ça. Puis là, je vous parle de danse, mais c'est la même chose avec les artistes en sonore. Il y a des gens qui travaillent avec des chants de baleine à bosse, par exemple, puis ils font des symphonies avec ça. Ils mixent ça avec des instruments humains. Il y a des artistes peintres, il y a des artistes de cirque. Les artistes, ils sont vraiment... Puis on n'est pas si loin que ça des artistes. Les scientifiques, à chaque party de Noël, dans tous les instituts de recherche, il y a toujours plein de collègues qui font de la musique, de la danse ou du théâtre qui émergent comme ça. Je me rappelle à notre spectacle de fin d'année, quand j'étais en bio, on avait un prof de génétique qui jouait du violon presque comme Vivaldi, là. Donc, les scientifiques, les artistes ne sont pas si loin que ça. Puis quand ils travaillent ensemble, ça donne vraiment des choses extraordinaires.
Des cerveaux créatifs.
Oui. Ouais. Tu as mentionné plusieurs groupes, donc pêcheurs, Premières Nations, artistes. J'imagine que tu utilises la vulgarisation pour leur parler. Est-ce que, mettons, je sais aussi que tu fais un balado. Est-ce que, je voudrais savoir quelle sorte de vulgarisation ou comment est-ce que tu modèles ta vulgarisation pour parler à ces différents acteurs-là?
La vulgarisation, ça a été quelque chose de charnière dans ma vie. Puis ça aussi, je pensais au départ que c'était un hobby. Puis le jour où j'ai réalisé que pour faire ma science, l'écologie de la conservation, ça prenait ça comme outil. Le jour où j'ai réalisé que si j'étais chimiste ou généticienne, la meilleure façon de faire mon travail, ça serait de m'équiper d'un super labo avec des PCR et toutes sortes de machines dernière technologie pour être capable d'avoir les meilleurs résultats possibles dans ce que je fais. Puis, je me suis rendu compte que l'écologie de la conservation, le meilleur outil puis le meilleur labo que tu peux avoir, c'est un micro, c'est de la vulgarisation, c'est de l'implication dans le grand public. Donc, à différents niveaux, cette vulgarisation-là, elle se travaille. Faire de la vulgarisation scientifique auprès du grand public, c'est super important. Moi, j'ai été modulée par un adage, une phrase que Cousteau répétait tout le temps, qui était « on protège ce qu'on aime, on aime ce qu'on connaît ». Puis lui, il a passé toute sa vie à essayer de faire connaître les océans pour que les gens puissent les protéger, à dire « regardez comme c'est beau ». Il ne faut pas perdre ça. Puis ça, c'est une chose, mais la vulgarisation, elle a différents niveaux aussi. Vulgariser un enjeu environnemental où le statut d'une espèce comme la baleine noire qui est en péril à un pêcheur, que ce n'est pas ça sa réalité, mais ce n'est pas de la vulgarisation grand public, c'est juste d'être capable de faire un pont pour que les gens qui ont le potentiel de travailler ensemble pour trouver des solutions se comprennent l'un l'autre. Donc, il y a de la vulgarisation haut niveau, il y a de la vulgarisation grand public. Pour moi, c'est comme toutes sortes de vulgarisations qui sont toutes des outils, comme des machines dans un labo de chimie, pour pouvoir faire ce pont-là puis être le plus efficace possible.
Bien, je trouve ça super intéressant de comprendre que, tu n'es pas nécessairement une vulgarisatrice scientifique. Tu es une scientifique qui utilise la vulgarisation vraiment comme outil. Puis je pense qu'avant de te parler, je n'avais pas réalisé ça du domaine de l'écologie, de la conservation. Il y a probablement des scientifiques, il y a des scientifiques dans la salle, mais il y en a probablement qui voudraient se lancer en vulgarisation ou au moins utiliser la vulgarisation. As-tu des conseils pour eux, comme des choses à faire ou peut-être à ne pas faire?
La première chose à vous conseiller, c'est de le faire parce que c'est cool. Il y a plein de monde qui disent genre « Ah, mais moi, je suis pas à l'aise avec les médias » ou « Je suis pas à l'aise ». Trouvez-vous le médium ou la plateforme qui vous convient bien. Exemple, j'étais à la télé cette semaine. Passer à la télé pour passer du contenu, c'est une chose. La radio ou les balados, c'est tellement plus facile. C'est facile d'avoir l'air intelligent en radio quand tu as des notes puis tu les lis ou il ne faut pas trop les lire parce que ça s'entend, mais je veux dire, il y a toutes sortes de médiums qui permettent de travailler plus ou moins le message puis d'être capable de livrer ce message-là. Il y a de la belle vulgarisation qui peut être faite à l'écrit. Il y a toutes sortes d'exercices de vulgarisation. Vraiment, choisissez votre médium puis allez-y, c'est vraiment cool, puis c'est un outil qui est tellement, tellement performant quand on le fait, puis ça peut prendre toutes sortes de formes là, différentes.
C'est un outil performant, mais on n'a pas besoin de viser la performance pour les utiliser, fait que je trouve ça vraiment intéressant. Je pense qu'on a plusieurs exemples de vulgarisation scientifique qui étaient faits, on pourrait peut-être aller les voir, puis tu pourrais nous expliquer comment tu les as utilisés.
Bien, donc, je pense que celle de l'image de gauche, c'est ton balado, en fait.
Oui, oui.
Veux-tu nous dire deux, trois mots sur qu'est-ce que tu publies?
Bien, balado, qui porte d'ailleurs, et ça, on a eu tout un dossier là-dessus, le GRIL, le groupe de recherche de l'Université de Montréal en écologie aquatique, a le même nom de balado, mais on s'est entendu ensemble pour faire des épisodes conjoints des fois, puis il va y avoir balado de mer, balado douce. Ça va être ça. Mais balado, en fait, je voulais que ça soit un podcast qui parle de toutes sortes d'affaires en lien avec la mer, mais pas nécessairement de la science. Ça peut être des marins. Il n'y a pas longtemps, j'ai parlé avec le gars qui gère les archives de Disney, et il me parlait de tout ce que Walt Disney avait, son rapport à l'océan, puis tous les documentaires qu'il a voulu faire sur l'océan avant de faire des films d'animation. Donc, c'est la mer, mais de toutes sortes de façons différentes. Puis, c'est un peu ça, le concept de balado. C'est d'un océan à l'autre, mais pas juste au travers des océans, mais l'autre comme l'autre individu. Puis, je suis une fille tellement curieuse que je voulais comme aller à la rencontre des gens, puis de leur rapport à la mer. Il y a des gens qui ne sont pas des océanographes, mais qui ont grandi sur le bord du fleuve. Il y a Anaïs Barbeau-Lavalette qui va venir bientôt à mon podcast, qui va me parler de son rapport au fleuve, parce qu'elle a besoin de l'eau pour écrire. Donc, tout ça, c'est des histoires d'océan qui, moi, me branchent. Puis, c'est ça que j'essaie de reproduire avec balado.
Bien, ton rapport au fleuve, ça motive beaucoup ton élan de recherche à la base.
Bien oui.
Fait que tu es un artiste, dans le fond.
Moi, je dirais au public d'aller écouter ton balado.
Oui.
Donc, la deuxième image, c'est ça. Donc, on a googlé ton nom. Et puis, il y a cette image de Barbie qui est venue dans, sur nos
je l'ai apportée, puis je me suis habillée comme elle aujourd'hui.
Non, oui. Ouais. Peux-tu nous expliquer ça?
Écoute, comment c'est arrivé? Ça, c'est extraordinaire parce que, je pense que c'est en 2018 ou 2017, la compagnie Mattel s'associe avec National Geographic pour faire une campagne sur des femmes de science. Et ils font 4 Barbie et ils décident de les associer, ces Barbie-là. Je ne sais pas comment Mattel fonctionne, mais il y a la Barbie qui fait du ski, la Barbie ici, la Barbie ça. Et puis là, c'était une campagne qui s'appelait « You can be anything » et c'était des métiers de science. Puis ils ont fait ça en collaboration avec National Geographic. Puis National Geographic, quand ils ont dit oui à Mattel, ils ont dit « On embarque, mais on veut que ces métiers-là soient représentés par des vraies Canadiennes » qui font ces métiers-là. Donc, il y a eu Sarah Iverson, qui est une biologiste polaire, qui travaille sur les écosystèmes dans l'Arctique. Il y avait une wildlife photographer, une photographe de la faune. Donc, ce n'était pas une scientifique, mais vraiment une spécialiste là, de Calgary, qui s'appelle Colleen Gara, qui fait des photos spectaculaires. Donc, vraiment des métiers de National Geographic. Il y avait une astrophysicienne, dont j'oublie le nom, et il y avait la Barbie conservation de la nature, qui physiquement ne me ressemble pas du tout. Elle ressemble à Dora un peu. Puis elle est habillée comme Jane Goodall. Et toutes les Barbies viennent avec un petit accessoire. Et elle, son accessoire, c'est un singe parce que c'est vraiment un hommage à Jane Goodall qui était une des pionnières en conservation. Donc, quand ils m'ont appelée pour faire ça, au début, je pensais que c'était une joke. Puis après, j'ai été complètement fascinée par ça. Puis, ce qui m'a fait dire oui, c'est que ça venait avec un programme qui jumelait des jeunes enfants qui avaient le rêve de faire ces métiers-là, puis ils nous les envoyaient pour qu'on passe 2 jours ensemble. Donc, j'ai passé 2 jours dans la baie de Fundy avec une petite fille de la Saskatchewan qui voulait être une femme de conservation de la faune. Et puis, on est allé voir des baleines, des oiseaux, puis de voir les étoiles dans les yeux de cette petite fille-là, c'était complètement extraordinaire. Puis, c'est ce programme-là de jumelage que j'ai trouvé intéressant. On m'a critiqué parce que la Barbie est en plastique, puis ils m'ont dit « Pourquoi tu t'es associée à ça? C'est un jouet en plastique. » Puis, j'y ai pensé longtemps, puis après, je me suis dit que, comme dans toutes les choses, il n'y a jamais rien de parfait, mais le gain qu'on a fait à sensibiliser puis à inspirer des jeunes à aller pour des métiers comme ça, puis à leur montrer à quel point c'était important, et allait bien au-delà de ça. Puis en plus, ça m'a donné une porte d'entrée chez Mattel, puis là, on travaille pour qu'ils fassent des Barbies en plastique recyclé.
Nice! Est-ce que ça t'a pas donné l'idée non plus de faire une Barbie biologiste marine? Tu voulais pas pousser un petit peu plus pour que ça s'enligne vers un petit...
Bien, en fait, j'ai pas choisi la thématique. La biologiste polaire slash marine qu'il y avait dans les quatre, c'est Sarah Iverson qui l'a eue. Elle est à Dalhousie, à l'Université de Dalhousie. Donc, moi, je suis bien contente là, avec ma biologiste de la conservation de la faune. On a fait plus d'affaires, puis un petit singe. Un petit singe, oui. C'est le fun aussi.
Moi aussi, je pense que je voudrais une Barbie à mon effigie, mais recyclable. Donc quand,
oui, oui. Quand attendez que ce soit des Barbies en plastique recyclé.
Oui, oui. Mm. Et puis, donc, la troisième photo, c'est toi, et tu portes un T-shirt qui dit « Mission 100 tonnes », qui oui. est maintenant rendu « Mission 1000 tonnes ».
Oui, puis au début, c'était j'ai un vieux OG T-shirt là, qui est « Mission 10 tonnes ». Mais ça, c'est une... C'est que l'histoire, c'est que j'étais chef scientifique sur un bateau en 2017 qui faisait les trois océans canadiens. C'était dans le cadre du 150e anniversaire de la Confédération. Puis c'était un projet fort là, de cette année-là. Puis j'étais la scientifique à bord, puis je gérais différents projets de recherche. Puis à bord, il y avait aussi des citoyens engagés dans toutes sortes de causes sociales ou environnementales, dont... Jimmy Vigneux, qui était là à bord. Il est venu dans mon labo quelques fois, puis après l'expédition, quelques mois plus tard, il m'appelle, puis il me dit, là, moi, je suis tannée de voir tout ce qui se passe en termes de pollution plastique dans nos océans. Je vois passer ça sur les médias sociaux. Puis tout ce que je fais, c'est m'indigner, puis repartager en disant que ça n'a pas de bon sens. Puis je veux faire quelque chose de plus. Puis là, il m'a dit, j'ai eu comme idée de ramasser 10 tonnes de déchets dans les cours d'eau du Québec. Ça te tente-tu de faire ça avec moi? Puis là, j'ai dit oui, parce que je dis tout le temps oui. Puis, puis après, je me suis dit, merde, dans quoi je viens de m'embarquer? Je vais passer tous mes week-ends, mes vacances. Ça va me prendre 2 ans, puis je vais juste passer mon temps à ramasser des déchets. Puis j'ai comme eu un petit moment de panique. Puis finalement, ben ça a pris 75 jours à ramasser 10 tonnes parce qu'il y a des milliers de personnes qui ont décidé... On a fait une page Facebook, puis il y a des milliers de personnes qui ont décidé de le faire avec nous. Donc là, on a changé le 10 tonnes pour 100 tonnes. Et puis encore une fois, ça a continué de grandir. Puis il y a un an et demi maintenant, on était à... genre 96 tonnes, puis on se disait, qu'est-ce qu'on va faire après? On va-tu continuer 200 tonnes? Puis j'ai un ami pêcheur de crabe des neiges qui m'appelle, puis qui me dit, Lynn, Stéphane Ferron, qui s'appelle, il est en Acadie, puis il me dit, on a fait un nettoyage, puis on fait ça pour la mission 1000 tonnes, on a tout ramassé les anciens casiers de pêche là, abandonnés, puis tout ça, puis on a tout enlever ça de l'océan. Puis j'ai fait « Super, Stéphane, c'est cool, combien vous avez ramassé de kilos parce que nous, on va le comptabiliser. » Puis il me dit « On a ramassé 6 tonnes. » Puis là, ben ça marchait plus parce que j'ai appelé Jimmy puis j'ai dit « Ben là, on n'est plus à 100 tonnes. » Stéphane vient comme de faire buster notre objectif. Fait que là, on a changé de nom pour Mission 1000 tonnes. Puis là, on ne changera plus, là. Parce que administrativement, c'est trop compliqué. Fait que quand on sera rendu à 3000 tonnes, ben ça sera mission 1000 tonnes, pareil, parce que juste d'un point de vue des visuels puis de la logistique, là, c'est quelque chose.
Est-ce qu'il y a comme scientifique de voir tous ces déchets plastiques-là? Parce que souvent, c'est des déchets plastiques. J'imagine il y a aussi de la ferraille, mais ça t'a donné une nouvelle perspective sur les rivières, les cours d'eau du Québec, puis après, ça t'a donné des idées créatives pour des projets de recherche. Est-ce que ça t'a éveillé quelque chose de nouveau d'un point de vue scientifique?
C'est sûr que dans tout ce que je fais, j'ai comme une approche scientifique qui essaie de comprendre le mécanisme. Puis j'ai fait mon doctorat sur le fonctionnement des écosystèmes. Donc, toute cette approche ou cette pensée-là mécanique des choses, moi, je pense tout le temps comme ça. Je pense au processus en dessous, puis tout ça. Puis ce qui m'a le plus intéressé là-dedans, c'est, bon, premièrement, pourquoi les animaux mangeaient du plastique? Là, je me suis mis à m'intéresser au comportement de différents types d'animaux, puis pourquoi le plastique se retrouvait dans les estomacs. Puis c'est pas la même chose pour une baleine qui va engouffrer des grandes gorgées d'eau que pour l'oiseau qui est capable de sélectionner la nourriture, mais qui choisit le plastique parce que c'est de la bonne grosseur, c'est de la bonne couleur, ça ressemble à une proie, mais ça bouge pas. Donc, c'est bien plus facile à attraper que de courir après un poisson pendant ou de nager après un poisson. Donc, de m'interroger sur le pourquoi ça se rend là, puis qu'est-ce que ça a comme impact. C'était intéressant. Puis après, je me suis mis à m'intéresser aux humains parce que ce côté-là, un peu psychologie dans l'écologie de la conservation. Puis je me suis dit, qu'est-ce que ça fait quand on fait des nettoyages comme ça? Bien, ça fait, premièrement, qu'on nettoie l'environnement, puis c'est une bonne chose. Ça fait aussi que ça empêche ce plastique-là ou ces déchets-là de se dégrader en microplastique. Et ça, à l'heure actuelle, il n'y a aucune technologie, on n'a pas de robot, de machine, on n'a rien qui est capable de ramasser des microplastiques. Donc, tout ce qu'on est capable de ramasser avant que ça se dégrade, c'est comme un deux dans un. Et puis, la troisième chose, c'est quand on a les deux pieds dedans ou les deux mains dedans, ça opère un changement dans notre retour à notre quotidien, à la maison. Et ça, c'est encore plus important que la quantité de plastique qu'on a ramassé parce que faire des nettoyages, là, je suis désolée d'être rabat-joie, mais ça ne sera pas assez. C'est comme vider une baignoire avec le robinet ouvert, puis avoir la petite cuillère qui vide la baignoire. S'il n'y a personne qui ferme le robinet, bien, notre cuillère n'est pas assez grosse pour faire une différence.
Mais dirais-tu au moins que de faire ces actions-là, ça l'aide à diminuer ou tempérer un peu des sentiments éco-anxieux?
Bien, ça aide l'éco-anxiété parce qu'on a l'impression de faire partie d'une solution. Au lieu de juste constater que ça va mal puis qu'il y a de la pollution, quand on adhère aux solutions puis on adhère au changement, il y a un côté rassurant là-dedans. Mais ça aussi, ça a changé en écologie de la conservation, toute cette approche à l'éco-anxiété parce que on n'avait pas ça avant. C'est comme un nouveau terme, là, l'éco-anxiété. Ça fait pas si longtemps que ça existe.
Comment qu'on utilise l'éco-anxiété pour en faire une opportunité en écologie de la conservation et non comme un problème?
Bien, ça, c'est une autre chose qui a vraiment comme changé ma vision puis qui a rendu encore plus efficace ma façon d'agir ou de faire mon travail. En 2017, il y a eu une conférence charnière dans ma vie à moi, à Washington. C'était le Smithsonian qui organisait la conférence et ça s'appelait le Earth Optimism Summit, le sommet mondial sur l'optimisme. Et la prémisse de base de ce congrès-là, c'était qu'en conservation, la recette longtemps, elle était la même. Les scientifiques décrivaient l'ampleur des problèmes. Par exemple, les pluies acides dans les années 80-90, on décrivait les pluies acides, on comprenait pourquoi il y avait des pluies acides, on comprenait qu'est-ce que ça avait comme impact. Et là, on vulgarisait ça le mieux possible au grand public. Et là, les gens faisaient « Ah, ben oui, ça n'a pas de bon sens, il faut faire quelque chose. » Et là, des actions étaient posées. Puis, le rôle du scientifique, il y avait déjà de la vulgarisation dans le processus à l'époque, mais le rôle du scientifique, c'était vraiment de faire réaliser aux gens qui sont capables de poser des actions, donc monsieur, madame, tout le monde, les gouvernements, tout ça, qu'il faut faire quelque chose. Puis maintenant, ça ne marche plus, ça. Ça ne marche plus parce que si moi, je vous dis les changements climatiques, la perte de biodiversité, c'est toutes des affaires qui vont mal. Puis qu'est-ce que les gens font quand on leur dit ça maintenant? Ils deviennent éco-anxieux, ils se mettent la tête dans le sable pour se protéger ou ils partent à la course. Donc, la nouvelle recette, et c'est vraiment là-bas que j'ai appris ça, bien, c'est de parler d'optimisme, d'espoir, puis de partager des histoires de succès, puis il y en a des histoires de succès. Donc, de partager des bonnes nouvelles sans être l'espèce d'utopique là, qui ne veut pas voir que les choses vont mal. Je pense qu'il y a un rôle très important pour les scientifiques qui sont dans la description. Moi, je ne peux plus être dans la description passive des choses, puis j'ai choisi d'être dans l'action puis dans les solutions, mais maintenant, ces actions-là, elles passent par l'espoir puis l'optimisme, ce qui fait bien mon affaire parce que sinon, je serais constamment déprimée puis je ne survivrais pas.
Bien, moi, j'aimerais ça qu'on parle des baleines.
Oui! Oui!
J'attends que ça.
Ah, bien, je peux me lancer avec les baleines parce que je pense que la première chose que je t'ai sûrement dit, c'est « OK, Lynn, est-ce qu'on peut parler des baleines? » Peu importe qu'est-ce que tu fais, je sais que tu as des savoirs, des connaissances sur les baleines. Puis je sais qu'il y a beaucoup de gens dans la salle aussi qui trippent sur les baleines. Il y en a peut-être quelques-uns qui veulent être biologistes marines, même si ils sont à l'Université de Montréal.
Ça se fait, ça se fait.
Je pense que j'ai écouté le documentaire de James Cameron au moins 5-6 fois, puis je vais continuer de le réécouter. C'est vraiment mon comfort food. Là. Quand je me sens mal, quand je me sens bien, je veux juste écouter ça. Donc, j'aimerais ça qu'on en parle un petit peu au niveau du Québec. Quelles baleines on retrouve sur notre territoire? C'est quoi les menaces qui les guettent? Est-ce qu'il y en a une en particulier qui... On peut deviner par l'image qu'on voit là. Est-ce qu'il y en a une en particulier qui est plus sujet à une menace? Et est-ce que tu peux nous faire part d'études auxquelles tu as participé ou que tu vas participer sur les baleines?
Bien, on a 13 espèces de cétacés dans le Saint-Laurent, dont ça va du plus petit cétacé, les marsouins communs qui sont vraiment plus petits que des dauphins encore, jusqu'au plus gros animal de la planète, la baleine bleue. Donc, on a tout ça dans le Saint-Laurent, puis tout ce qui se retrouve entre les deux. On a des épaulards, on a des baleines à bosse, on a des bélugas, on a des globicéphales, on a toutes sortes de choses. La moitié de ces 13 espèces-là ont un statut plus ou moins important d'espèces en péril pour différentes raisons. Donc, c'est quand même assez... c'est un sentiment ambivalent parce qu'on a la chance d'avoir une belle biodiversité de cétacés au Québec. Et puis, en même temps, bien, il y en a plusieurs de ces cétacés-là qui en arrachent un peu ces temps-ci. L'exemple de la baleine noire en est un bon. J'aurais pu vous parler du beluga du Saint-Laurent aussi. Dans les deux cas, c'est des espèces en voie de disparition. Mais celle-là est particulièrement intéressante, la baleine noire, parce qu'il en reste un peu moins de 350. Ça a déjà été pire que ça. Il y en a eu 200 quelques, là, quelques années, puis ça avait remonté à force d'efforts de conservation. Donc, c'est pour ça que moi, j'ai encore peut-être mes lunettes roses, mais j'y crois qu'on peut faire une différence. Mais au-delà de la tristesse de la population qui ne va pas bien, les femelles qui étalent de plus en plus les cycles de reproduction sur de plus en plus d'années. Une femelle, avant, ça pouvait avoir un petit à tous les 2-3 ans. Maintenant, c'est à tous les 10 ans. Il y a deux grandes causes de mortalité sur ces baleines-là. C'est les empêtrements dans les filets de pêche, puis les collisions avec les navires. Donc ça, c'est triste. On voit des baleines mortes. En 2017, on a eu une hécatombe de baleines noires qui sont mortes dans le golfe du Saint-Laurent. Mais au travers de ça, ou au-delà de ce triste tableau-là, il y a dans cette espèce-là une incroyable force de collaboration. C'est des ambassadrices de collaboration sans précédent. C'était du jamais vu en 2018 de voir des scientifiques avec les gens du gouvernement, avec les gens des organismes à but non lucratif, avec les pêcheurs, avec les gens du transport maritime, travailler tout le monde ensemble à essayer de trouver des solutions. Et on l'a fait tellement bien puis tellement vite au Canada que c'était à faire verdir de jalousie les Américains qui font face aux enjeux avec les baleines noires depuis les années 90. Nous, c'est des réfugiés climatiques. Avant, elles venaient pas jusque dans le golfe Saint-Laurent. Elles allaient dans la baie de Fundy, au large du Maine. Et maintenant, faute de trouver de la nourriture là-bas, elles vont faire le voyage plus loin, jusque dans le golfe. Puis ici, bien, faire face à des nouveaux enjeux ou à des humains qui n'étaient pas prêts à les recevoir ou à les accueillir de la façon la plus sécuritaire possible. Mais en cinq ans, on a fait des pas de géant pour essayer de trouver des solutions pour protéger cette espèce-là. Puis ça marche. C'est pas parfait, mais ça marche. Puis à chaque année, on le fait de mieux en mieux. Et puis ça, ben moi, malgré la tristesse de l'histoire de la baleine, je trouve qu'il y a une leçon. Cette baleine-là, qui est en train peut-être de disparaître, est aussi en train de nous apprendre à travailler ensemble. Puis ça, ben c'est bon pour le golfe du Saint-Laurent, mais d'un point de vue plus général, c'est bon pour la planète, parce qu'avec les enjeux auxquels on fait face, si on n'apprend pas à travailler ensemble, puis qu'on continue de travailler les uns contre les autres, puis ceux qui ont de l'argent contre ceux qui n'en ont pas, puis ça ne peut pas marcher. Donc, c'est des profs incroyables, ces baleines-là, puis c'est une raison de plus pour essayer de les protéger.
Tu le dis souvent, là, d'ailleurs, les baleines, c'est des vecteurs de rassemblement. Mm-hmm. Puis ça vous a permis de faire des collaborations internationales aussi?
Donc, ben oui.
C'est pas juste au Canada, puis avec les acteurs, les actrices, les pêcheurs, les pêcheuses, c'est vraiment avec d'autres personnes de...
Ben, on n'a pas le choix parce que c'est des espèces qui connaissent pas les frontières que les humains se sont fixées. Là. La baleine, elle va passer l'été ici pour s'alimenter, puis va partir jusque dans les eaux tropicales pour pouvoir donner naissance à leurs petits dans l'hiver. Donc... c'est tous les pays le long de son chemin qui doivent travailler ensemble. Si on fait quelque chose ici puis que c'est déconstruit quand tu penses au large des États-Unis, ça ne marche pas. Si on fait quelque chose ici puis dans les Caraïbes, c'est complètement autre chose, ça ne marche pas. Mais là, ce qui est extraordinaire, c'est que je travaille entre autres avec des jeunes dans les écoles, des scientifiques. Oui, on fait beaucoup de recherches fondamentales, mais moi, ce que j'aime le plus, c'est quand j'arrive dans une école dans les Caraïbes, puis je leur dis, bien, vous savez, les baleines, puis tout ce que vous faites pour les protéger ici, bien, elles viennent chez nous après, puis quand elles arrivent chez nous, ces baleines-là, soyez rassurés, on va les protéger aussi, puis c'est comme si on se passait comme dans une course à relais, puis on se passait le témoin, donc ça, c'est extraordinaire, puis on le sent qu'on n'est pas tout seul dans ce temps-là. Puis ça aussi, contre l'éco-anxiété, c'est bon parce que quand tu fais face à des enjeux qui sont de cette grandeur-là, c'est tellement facile de se sentir tout seul, de se sentir petit. Puis ben, dans des projets comme ça, on se sent tout sauf tout seul parce qu'il y a plein de monde qui travaille ensemble. Puis c'est du sans précédent, là. Les pêcheurs, avant, il y a 5-6 ans, les pêcheurs de crabes ne parlaient pas aux pêcheurs de homards. Les pêcheurs côtiers ne parlaient pas aux pêcheurs hauturiers. Il y a personne de ce monde-là qui se parlait. Puis là, maintenant, tout le monde travaille ensemble pour essayer de trouver des solutions. Donc ça, c'est extraordinaire.
Bien, d'ailleurs, on a une diapo avec toi, j'imagine, sur un bateau, à côté d'un
bateau
de pêche.
Oui.
Je voudrais comprendre un petit peu mieux comment est-ce que cette collaboration-là est arrivée, parce que tu parles de, c'est bon, on travaille avec vraiment beaucoup de gens différents, mais qui approche qui en premier? Comment est-ce que tout ça se met en place?
Bien, souvent, chez nous, il y a les scientifiques qui essaient de travailler le plus possible avec les gens, les côtiers, les gens qui sont sur le terrain. Il y a plusieurs initiatives gouvernementales qui permettent un peu ces rencontres-là aussi, mais je vous dirais que dans le quotidien, là, souvent, c'est l'industrie, le transport maritime ou la pêche, qui appellent les scientifiques puis qui leur disent hey, « mais moi, j'ai une idée, puis on ne pourrait pas essayer de faire ça. » Puis ben, il suffit juste qu'ils tombent sur quelqu'un de crinqué ou d'enthousiaste comme une Lynn Morissette, puis ben, ça marche. on fait des projets scientifiques ensemble. Là, je travaille présentement avec des pêcheurs en Gaspésie à développer des nouveaux engins de pêche, avec des ingénieurs, mais avec des idées de pêcheurs qui connaissent leur truc, puis qui se disent, ben là, si on fait le cordage de telle ou telle façon, ou que nos casiers sont reliés de telle façon, ben peut-être que ça marcherait. Puis c'est leurs idées qu'on est capable après de propulser, puis d'encadrer dans des protocoles scientifiques. Je suis capable de leur faire récolter des données. Puis j'ai des bases de données maintenant, puis les gens qui prennent les données, c'est des pêcheurs de homards, puis de crabes des neiges. Ce n'est pas des scientifiques, mais c'est un défi, là, souvent, là, de leur expliquer l'importance de la collecte de données. Mais c'est du savoir qui est tellement précieux qu'on essaie vraiment d'en récupérer le plus possible.
Mm-hmm. J'ai tellement de questions, mais si je veux avoir le temps pour les questions du public, j'aime les garder pour plus tard. Mais une dernière, quand même, pour clore l'épisode. Avec tout ce que tu as accompli, avec tout ce que tu vas accomplir, avec ton engagement en vulgarisation scientifique, avec ton engagement citoyen, qu'est-ce que tu voudrais qu'on retienne du passage de Lynn Morissette? Donc, quelle grande contribution majeure au Québec tu voudrais laisser?
C'est drôle parce que je me suis posé cette question-là en 2016, quand j'ai failli mourir en 2016, puis j'ai eu... Quoi?
J'ai-tu entendu?
Mic drop! non, mais c'est fou parce que c'est étroitement lié avec tout ce que j'ai fait dans la vie. J'ai travaillé sur la résilience des écosystèmes. Puis j'ai fait tester ma résilience à moi en 2016. J'ai eu une tumeur au cerveau, puis je me suis dit... qu'est-ce que je dois faire pour passer au travers de tout ça? Puis, je me suis vraiment inspirée de comment les écosystèmes étaient résilients à des grosses crises puis étaient capables de revenir de ça. Fin de la parenthèse sur la tumeur au cerveau, mais avant de revenir de ça puis de m'en remettre, j'étais convaincue que j'allais mourir. Puis quand je me suis dit, OK, bien là, je vais mourir, puis tout le monde meurt, puis c'est comme ça que ça arrive, je me suis vraiment posé cette question-là. J'étais convaincue que j'allais mourir, puis je me suis dit, de quoi les gens vont se rappeler? Tu sais, qu'est-ce que j'ai fait? Puis je me suis dit, bien, mes deux enfants sont bien élevés, sont bien partis, ils sont sur un bon chemin, ils vont être corrects. Je pense que les gens vont se souvenir de moi parce que j'ai fait une différence. Puis je pense que tout le monde peut faire une différence si on prend le temps de se reconnecter avec la nature, avec les océans, avec la forêt, puis de prendre notre place dans l'écosystème, puis d'avoir l'humilité de comprendre qu'on est juste un élément de l'écosystème, puis honorer la chance qu'on a de faire partie de cet écosystème-là. La santé de nos écosystèmes, c'est notre santé, puis c'est une boucle. Puis je pense que tout le monde peut faire une différence parce qu'on est connecté sur cet écosystème-là, puis j'espère. En tout cas, moi, ce que j'ai compris quand je me suis fait mon bilan, c'est que les gens allaient probablement se rappeler de ça, plus que des erreurs que j'aurais pu faire, peut-être. Mais, je me suis posé cette question-là en 2016, puis c'est la réponse que je m'étais trouvée à l'époque. Puis si maintenant je réponds à ta question, c'est encore la même chose. Je pense que c'est d'avoir l'humilité de prendre notre place dans l'écosystème, mais de réaliser aussi que quand on part, il reste des choses, il reste les gens qu'on a inspirés, puis il reste tout ce qu'on aura inspiré ou semé comme graine. Puis ça, ben quand on réalise ça, puis qu'on dépasse notre ego, ben on se rend compte qu'on est d'une certaine façon un peu immortel parce que tout ce qu'on peut faire dans une vie, c'est beaucoup plus grand que la capacité d'un humain. Fait que pour être super efficace, il faut inspirer d'autres personnes. Moi, j'ai juste une certaine quantité d'années à vivre. J'ai un corps avec des restrictions physiques, mais si j'inspire des gens puis je leur donne la possibilité de faire la même chose, ben je deviens bien plus qu'une seule personne. Puis ça reste. Fait qu'après mourir ou pas, c'est plus important.
Wow! Je pense qu'on va devoir réécouter ce bout-là de l'épisode pour bien l'absorber, mais merci.
Comme un chakra.
Chaque matin avant de continuer ma thèse. Mais merci pour ce partage, c'est vraiment généreux. Je retiens que l'île Morissette, c'est un écosystème résilient.
Oui.
Puis que l'optimisme, ça l'aide à avancer. Puis au-delà de ça, bien, le transfert des connaissances, c'est un peu ce qu'on lègue au Québec, donc, puis au monde. Mais merci pour tout ce partage généreux. Je suis vraiment inspirée.
Oui, moi, je serais restée vraiment longtemps là, pour discuter avec toi sur l'écologie de la conservation, nous faire découvrir toutes les espèces marines qu'on a autour de nous. Avant de clore l'épisode, par contre, je voudrais savoir, j'ouvre la salle et si on a des questions du public, c'est le temps de les poser. MC va se promener entre les rangées, sans trop vous déranger, avec le micro. Ça peut être des questions toutes simples. En fait, je vais commencer. As-tu déjà touché une baleine?
Oui, j'ai déjà... Non, attends. Oui. Okay. La réponse, c'est oui, mais ce n'est pas aussi spectaculaire que ce à quoi vous vous attendez. J'ai déjà touché à des baleines mortes. Ah. J'ai fait plein de nécropsies de baleines échouées. J'ai été dans l'eau en présence d'une baleine à bosse qui chantait en Guadeloupe, et j'y ai presque touché parce qu'elle n'était pas physiquement à côté de moi, mais quand on est dans l'eau avec une baleine qui chante, ça résonne dans notre cage thoracique.
Wow,
puis c'est plus que... C'est vraiment plus que... Tu ne l'entends pas avec tes oreilles.
Okay.
Tu le sens dans ton corps, fait que ça, pour moi, c'est comme toucher à une baleine.
Wow.
C'est plus le fun que les baleines mortes.
Oui.
C'est tombé un souvenir précieux.
On a une question ici en avant?
Bonjour, merci beaucoup. Est-ce que vous compteriez éventuellement aider l'UDM à mettre en place un cours de biologie de la conservation?
Ça serait extraordinaire. Il faudrait absolument avoir un cours d'écologie de la conservation. Puis tous les chercheurs de Arizona State University ont déjà un programme au complet duquel on peut s'inspirer, n'importe quand.
Ce serait quoi des grandes thématiques de cours de biologie ou écologie de la conservation?
Bien, il y a toute la façon dont on calcule. C'est drôle parce que je suis en train de donner un cours à deux étudiants de maîtrise présentement, puis je me suis recréée en mini un cours d'écologie de la conservation à l'ISMER, mais comment on calcule les espèces en péril? C'est quoi? Qu'est-ce que ça prend pour changer de catégorie? C'est quoi la médiation ou la concertation? Comment faire travailler des gens ensemble? Il y aurait nécessairement un cours de vulgarisation aussi. La dynamique des populations, comment on compte les individus? Comment on dénombre certains types de populations? C'est quoi les biais par rapport à ça? Donc, tout le côté calculer la nature, puis déterminer si ça va bien ou ça va mal. Puis après ça, quand ça va mal, bien, comment, il y aurait des cours de psychologie, il y aurait des cours de communication. Je l'ai, mon cursus, là. Il est prêt. C'est tout prêt.
Où qu'on signe. Est-ce qu'il y avait d'autres questions?
Ouais. Merci beaucoup pour le super bon podcast. Moi, je me demandais, tu nous as raconté un petit peu ton histoire avec ton oncle qui était prof, comment ça t'a inspiré un peu à devenir biologiste. Mais je me demandais si, quand tu étais jeune, si tu as été marqué par le film « La grenouille et la baleine », si tu te reconnaissais un peu dans la petite Daphné à cette époque-là.
Ah, tellement! Bien, « La grenouille et la baleine », premièrement, l'actrice principale qui faisait Daphné, c'était Fanny Lauzier. Fanny Lauzier, elle a mon âge et elle vient de Rimouski. Donc, tout le monde à Rimouski a vu « La grenouille et la baleine ». Tout le monde voulait être Fanny Lauzier, puis moi, j'ai passé des étés à flacosser dans l'eau comme ça en attendant qu'une baleine vienne me voir de proche. C'est des phoques communs qui venaient finalement, c'était moins sexy. Mais dans le film, je voulais être Anne, la biologiste, parce qu'elle avait des écouteurs, un hydrophone, puis elle avait un super beau laboratoire, puis elle écoutait des chants de baleines. Puis c'est plus elle dans le film, mais ça a marqué une génération. Puis c'est drôle parce que là, 30 ans plus tard, 40 ans plus tard, je ne sais pas combien ça fait de temps que c'est sorti, La grenouille et la baleine, mais j'étais en cinquième année du primaire, je pense, quand c'est sorti. Fanny Lauzier, on se parle quelques fois par année, puis on jase de la mer avec des perspectives différentes. Là. Fait que oui, ça m'a vraiment inspiré ce film-là.
Autre question?
Bien là. Pose-les, des questions de baleine.
attends, moi j'en ai une. Je pense au futur.
Oui.
Et je me dis, est-ce qu'il y a quelque chose, comme un rêve qui serait, mais tu sais, là, on pense genre irréaliste, là, vraiment sans limite. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu voudrais réaliser? Ça peut être soit court terme, moyen terme, long terme.
Je pense que ça va arriver un jour, là. Peut-être pas là, mais j'aimerais ça avoir une fondation qui donne la chance à des projets atypiques de réaliser des idées qui font une différence pour la nature, pour les océans. Puis, si je ne sais pas comment ça marche fiscalement, là, mais mon assurance-vie va probablement s'en aller sur des affaires comme ça. Sorry les filles, mes deux filles, non, mais mes deux filles auront un héritage aussi, mais dans un monde là, parfait, là, j'aurais cette fondation-là qui donne la chance à des gens qui n'ont pas nécessairement le cadre standard d'un académique d'avoir du financement pour réaliser des idées qui font une différence. Mm-hmm.
Est-ce qu'il y a d'autres questions du public?
Oui.
J'arrive.
Tombe pas, là.
J'ai mis mes souliers de course. Okay.
Merci pour la question. J'avais une question par rapport aux actions, par rapport à la vulgarisation, etc. J'écoutais un podcast d'une sociologue qui s'appelle Monique Besson-Charlot, puis elle avait dit une phrase qui m'était vraiment restée à l'esprit. Elle disait que beaucoup de personnes, on va dire le monde scientifique, qui mettent l'anthropocène en cause de tous les enjeux environnementaux. Et elle dit, en fait, les gens, on ne met pas le capitalocène en cause. Puis je voulais savoir comment on pourrait changer toutes les actions qu'on fait quand on met cet enjeu-là en cause. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette affirmation?
Bien, c'est intéressant parce que je m'intéresse beaucoup aux travaux d'une amie à moi qui s'appelle Laure Varidel, Puis elle se pose ce genre de questions-là. Quand on calcule la richesse d'un pays à partir du PIB, puis quand à côté de ça, on demande aux gens qu'est-ce qui est le plus précieux, qu'est-ce que vous avez de plus précieux? Est-ce que c'est l'argent dans votre compte de banque ou c'est votre santé, vos enfants, le bonheur? Ça, c'est ce que la majorité des gens vont répondre qu'ils ont de plus précieux, puis c'est jamais calculé dans le calcul de la richesse. Puis ça, il faut que ça change. Puis les activités humaines de l'Anthropocène, puis notre soif de pétrole, puis notre impact environnemental, il est important, mais il y a tellement un changement de paradigme qui doit être fait aussi sur la façon dont on donne de la valeur à certaines choses, puis pas à d'autres. Il faut inclure l'environnement dans la valeur qu'on donne aux choses, puis ça, on le fait pas assez. Mais c'est drôle parce que quand j'étais à l'Université de Montréal, il y a un économiste américain qui s'est penché sur ce genre de questions-là. Il voyait les écolos comme moi, les biologistes, essayer de dire « faut sauver la planète, faut sauver la planète ». Puis on passait un peu pour des amis des animaux là, qui veulent protéger les animaux parce qu'ils aiment les animaux. Puis lui, il s'est mis à donner une valeur monétaire aux produits et services rendus par des écosystèmes en santé. Et puis, il a mis un chiffre là-dessus avec des signes de dollars. Puis là, à partir de ce moment-là, malheureusement, pour certains, parce que je trouve ça un peu triste qu'on soit obligé de mettre de l'argent, une valeur monétaire sur quelque chose pour que ça fasse allumer des gens, mais à partir de ce moment-là, quand on a su que les écosystèmes marins, par exemple, valent 24 000 milliards de dollars par année, bien là, on s'est dit « Ah, bien OK, peut-être que c'est important de… » Donc, il faut… L'argent ou le capitalisme va toujours exister, mais je pense qu'il faut comme retravailler notre perspective à la richesse pour inclure d'autres choses que juste de l'argent.
Merci.
À côté de toi.
Oui. Allô, merci pour la discussion vraiment intéressante. Un peu dans la suite de ces idées-là, est-ce que par rapport à… les stratégies batteries, par exemple, du gouvernement actuel qui font la promotion de plus d'activités portuaires dans le fleuve, etc. Est-ce que, en parallèle, vous essayez de développer des stratégies pour justement réduire les collisions, protéger les écosystèmes marins? Est-ce que ça peut aller de pair avec la croissance des activités sur le fleuve? Parce que est-ce que c'est juste mitiguer ce qui existe déjà ou est-ce que ça a réellement un pouvoir de limiter, même si on continue à croître l'activité sur le fleuve?
Je pense que les innovations scientifiques sont capables d'aller aussi, d'accompagner une certaine augmentation, par exemple, au niveau du transport maritime. Il y a 3 jours, j'étais dans un atelier sur les bruits sous-marins où il y a des gens, justement, qui développent toutes sortes de nouvelles technologies de matériaux pour les coques de navires ou encore des systèmes de détection ou juste l'électrification des transports maritimes. Un bateau électrique, ça fait moins de bruit qu'un bateau standard. Donc, tout ça, présentement, il y a vraiment des innovations technologiques super intéressantes qui sont là pour accompagner les gens, puis ces industries-là à exister ou à perdurer dans le temps. Puis l'enjeu en conservation, c'est qu'on ne peut pas juste effacer des choses. On ne peut pas juste effacer la pêche. La pêche, pour des régions côtières, c'est vraiment une grosse partie de l'économie. La semaine passée, ils ont annoncé qu'ils fermaient l'usine de crevettes de Matane. C'est économiquement, pour toute une communauté, c'est vraiment inquiétant. Le transport maritime, il y a 80 % des produits que vous utilisez dans votre quotidien qui ont été livrés par navire. On ne peut pas juste effacer les bateaux. Donc, il faut mettre de l'eau dans notre vin, puis accepter de travailler des fois avec ceux qui sont perçus comme les méchants de l'histoire, puis les accompagner pour essayer de coexister avec la nature. On est des humains, on a exploité beaucoup, on a des activités puis des opérations qui sont très dommageables pour l'environnement. Là, maintenant, mais on a aussi l'innovation puis la créativité de faire autrement. Donc moi, je crois plus à l'accompagnement puis à l'innovation qu'à effacer complètement des choses parce que quand on essaie d'effacer des choses, ça crée des chicanes. Puis le temps qu'on passe à se chicaner, c'est du temps qu'on pourrait mettre à travailler ensemble, à trouver des solutions. Donc, j'essaie vraiment de voir ça de cet angle-là. Peu importe l'enjeu sur lequel je travaille, là, il y a tout le temps des méchants qui passent pour les pas bons de l'histoire, puis qu'au final, tu te dis, ouais, mais ce pêcheur-là, il ne s'est pas levé ce matin en se disant, je m'en vais tuer des baleines aujourd'hui. J'ai peut-être encore les petites lunettes roses qui font en sorte que je crois que tout le monde a un cœur puis une bonne intention jusqu'à preuve du contraire. Puis j'aime mieux voir ça puis d'être déçu quelquefois par quelqu'un qui n'avait pas des bonnes intentions que de me méfier de tout le monde en me disant, genre, c'est tout des pas bons jusqu'à preuve du contraire. Puis ça, je vivrais constamment dans le négatif. Ça ne serait pas le fun.
Et merci, ça fait tellement du bien. C'est tellement empreint d'optimisme, comme tout ton discours. Je pense qu'on va tous sortir d'ici un petit peu plus léger. En tout cas, c'est mon cas. Je suis souvent fâchée, mais j'ai pensé à Lynn Morissette avant,
avant de piquer.
OK, j'ai une dernière question qui se répond en 30 secondes. Genre, une seconde. Ton mammifère marin préféré?
Les épaulards.
Pour quelle raison?
Ben parce que c'est les animaux les plus intelligents qu'on a sur la planète, puis ils sont tellement inspirants. C'est des grandes, grandes preuves de collaboration, eux aussi. Ils travaillent ensemble pour survivre. Puis ça, ben si on transmet ça à l'espèce humaine, on a des grosses leçons à recevoir des épaulards.
D'ailleurs, c'est un des épisodes du docu-série sur le secret des baleines sur Disney+.
C'est que je n'ai pas encore regardé, mais que je regarderai cette fin de semaine.
J'ai un étudiant qui fait sa maîtrise sur les épaulards qui vient du département de sciences biologiques de l'Université de Montréal. Alors, tout est dans tout. On continue de vous représenter dans la biologie marine au Québec.
Donc, Lynn, merci beaucoup. On est obligé de clore l'événement, mais c'était vraiment des échanges super enrichissants. Pour ma part, ben oui, je retiens l'optimisme. Je retiens aussi que la science, quand on veut, c'est vraiment un vecteur de rassemblement. Donc, autant entre scientifiques, qu'entre pays, qu'entre acteurs et actrices, ou même les espèces de la biodiversité. Puis aussi, toutes nos interactions qu'on a eues, qui nous ont menées jusqu'ici aujourd'hui, ben, tu sais, ce que je ressens vraiment, c'est un exemple de leadership positif qui fait du bien, en plus d'être une experte dans ton domaine scientifique, puis que toute ton implication sociale donne vraiment beaucoup de sens à ta recherche, puis tout ça se nourrit ensemble. Fait que pour moi, je trouve ça vraiment, vraiment inspirant. Merci beaucoup.
Ouais. Je vais répéter ce que MC a dit, mais je trouve ça important de te dire merci de t'être déplacée aussi à côté de Rimouski pour nous. C'est vraiment un privilège de pouvoir discuter avec toi et de comprendre que vraiment le domaine de l'écologie de la conservation, c'est il y a beaucoup d'outils différents qu'on utilise. Ce que je trouve inspirant, c'est que c'est vraiment les histoires de succès. T'sais, d'entendre ça, c'est super encourageant, je trouve. Donc voilà, merci.
On applaudit Lynn Morissette.
Merci.
Et juste avant de vous quitter, bien, on a des remerciements à faire parce qu'un événement comme celui-ci, le déplacement de Lynn, l'implication de tout le monde, bien, il est possible grâce à beaucoup de personnes et d'organismes. Donc d'abord, puis je pense qu'on peut même les réapplaudir, l'équipe du symposium pour l'invitation et la logistique. Ils ont tous fait un travail là, vraiment fantastique. Donc, merci, c'est super important de s'impliquer. Ensuite de ça, toute l'équipe des Lucioles, saison 2, Amélie, Mathilde, Léa, merci beaucoup à ceux et celles qui vont s'impliquer pour la suite et à nos invités. Oui, pourquoi pas? La Bibliothèque des sciences du Campus 1000, parce que c'est là qu'on enregistre tous nos épisodes et aussi tout le personnel là, qui est vraiment très précieux. Et pour les subventions et tous ceux qui nous ont permis de faire ça, donc l'Institut du Nouveau Monde et la FICSUM. Bon, on peut les applaudir parce que vraiment, oui, merci. Et pour finir, bien, les prix coup de cœur, ils sont financés par l'Institut de recherche en biologie végétale, donc l'IRBV, et par le département de sciences biologiques de l'Université de Montréal. Pour le public, bien, si vous ne nous suivez pas sur les réseaux sociaux, suivez-nous, puis on a aussi un incroyable site web qui est en ligne depuis très peu. Donc,
code QR.
Oui, faites-nous coucou, puis merci pour votre attention, vous êtes fantastiques. Ouh.